Alors, Yvan, on va accueillir un. Ben, je vais commencer comme ça, je pense qu'on pourrait dire un ex-collègue.
Un ancien collègue.
Un ancien collègue, oui, de Canal M, qui a été là pendant un certain temps.
Quand on n'était pas là.
Quand on était. Non, on a eu une petite période
on
où on
s'est vu.
Oui, une petite période où on s'est vu, mais très, très courte période. Mm-hmm. Alors, il s'appelle Daniel Lantaigne. Bonjour, Daniel.
Bonjour à vous deux.
Ça va bien?
Très bien, vous-même.
Oui, ça va. Alors, Daniel, il est vice-président, talent, stratégie et impact chez BNP Inspire, qui est une entreprise qui fait dans la philanthropie. Alors, Daniel a eu un accident très jeune et ça a nécessité, après, par la suite, une amputation au niveau du tibia, la jambe droite. Et Daniel, ça a marqué sa vie, hein, évidemment, on ne peut pas dire autrement, mais Daniel, à la suite de ça, je dirais qu'il est tombé dans la potion, dans la marmite de potion philanthropique.
Oh!
Je sais pas si ça existe.
Il y a des marmites comme ça?
Oui, ça, je pense que ça illustre pas mal l'affaire parce que, Daniel, vous avez tout un parcours hein, dans ce domaine-là de la philanthropie. Ça a commencé jeune.
Ben oui, puis j'adore votre image. Effectivement, je pense que je suis tombé dans la potion très jeune parce que ben la philanthropie, comment je dirais ça? Ça se vit différemment à différents stades de notre vie. Hein? Parce que quand on pense aux philanthropes, des fois, on pense aux grands mécènes, les grands donateurs, ces grandes institutions-là, mais on est tous un peu philanthropes à notre mesure. Puis moi, ben, c'est à l'âge de 4 ans que déjà tout ça commençait parce que, comme vous l'avez si bien dit, ben, j'ai eu un premier accident, un accident de facteur qui avait coupé une partie de mon pied. Et déjà là, j'ai été très, très vite sensibilisé à ben, quel rôle je peux jouer là-dedans, moi, maintenant, qui a vécu un accident, qui fait partie d'une association, là, pour pas la nommer, on va l'appeler l'Association des amputés de guerre.
Il faut la nommer, il ne faut pas se gêner.
Et cette association-là extraordinaire, ben, elle a très, très vite compris que ben, les jeunes, qu'est-ce qu'ils écoutent, ce sont des jeunes. Hein? Donc, parler d'une approche enfant-enfant, dire « moi, je n'ai pas été prudent, malheureusement, il y a un accident, je ne voudrais pas que ça t'arrive ». Donc, très tôt, on était, je vous dire, mis à contribution à faire œuvre utile là, comme membre de l'association en donnant des entrevues, en incitant les gens à soutenir l'association. Donc ça a commencé très tôt après mon accident. C'est ça déjà dès l'âge de 4 ans. Puis évidemment, ben, ça s'est matérialisé de d'autres façons là, à travers le cours de la vie. Voilà.
Daniel, quand on a 4 ans, là, comment on en arrive à se retrouver justement dans une association pour faire la promotion de la sécurité? C'est vos parents ou vous aviez déjà, je ne sais pas, été en contact avec ça au cours de ce que des soins ou de ce que vous avez dû faire par la suite de l'accident?
Ben, faut dire que c'était vraiment le personnel hospitalier de l'hôpital Sainte-Justine qui ont informé mes grands-parents que l'Association des amputés de guerre pouvait nous aider. Moi, j'habitais en campagne, là, dans banlieue, non, vraiment dans la campagne, sur la rive nord, dans le 450, et à la Sainte-Justine, ben, ça occasionnait bien des frais de déplacement, des absences et tout ça. Fait que ça venait avec beaucoup de frais. Et non, les amputés de guerre, là, ça résonne pas nécessairement lorsqu'on connaît pas l'organisation comme de l'aide pour les enfants amputés, hein, et leurs familles. Donc, c'est vraiment le personnel médical qui a mis mes grands-parents en contact, d'ailleurs, avec l'association. Et c'est là que, très tôt, ben, j'ai fait partie de l'association. On a découvert d'autres personnes amputées. Et puis, c'est là que la magie a commencé à s'opérer très, très tôt dans notre vie. Puis, ça a aussi donné un souffle financier là, à mes grands-parents, là, pour qui ben, il y avait quand même beaucoup de dépenses liées à tout ça. Là.
Et par la suite, comment vous avez continué dans ce chemin de la philanthropie?
Oui, ben très tôt, la philanthropie, c'est un mot que je connaissais pas à l'âge de 4 ans. Probablement que j'aurais mélangé
sûrement.
Avec la philatélie, j'aurais juste pensé à collectionner des timbres. Bon, évidemment, avant que ça s'incarne de façon un peu plus tangible, on faisait déjà beaucoup d'entrevues avec les médias, on participait à différents documentaires ou documents vidéo de sensibilisation publique. Et de fil en aiguille, ben ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Donc plus tard dans ma carrière professionnelle, j'ai travaillé dans le milieu bancaire là, pendant à peu près 7-8 ans. Au début, j'ai commencé, là, je m'étais délivré à jour en succursale. C'était mon début en même temps que je commençais mes études en administration. Et à la fin, ben, je suis atterri au département des dons et commandites. Et c'est là vraiment, je pense que je peux reconnecter avec les organisations, les organismes communautaires, les fondations. Et vous savez quoi? Quand j'ai quitté le monde bancaire, la première place où je suis allé travailler, c'est aux amputés de guerre. Donc, il n'arrive rien pour rien dans la vie. C'était déjà une cause que je connaissais, évidemment, des gens qui me tenaient à cœur. Et puis là, ben, j'ai été travailler aux communications et au développement philanthropique. Et plus tard, ben, ça s'est matérialisé différemment. Et là, aujourd'hui, ben, je suis rendu consultant dans ce secteur-là.
Oui. Combien d'années ont passé entre 4 ans et quand vous êtes revenu aux amputés de guerre?
Ah ben, je vous dirais une bonne vingtaine d'années. J'ai sûr, j'essaie de pas trop me vieillir, là, mais j'ai commencé vers fin vingtaine, début trentaine aux amputés de guerre. Puis c'était comme faire du bungee, mais en pyjama puis en pantoufles. Donc, je quittais le milieu corporatif, j'arrivais dans une philanthropie plus professionnalisée. Puis, mais en même temps, je connaissais l'organisation sur le bout de mes doigts. Je la vivais, je l'incarnais depuis mon enfance. C'était une belle transition du milieu corporatif au secteur associatif et des fondations. C'était une très, très belle expérience.
Et en fait, vous avez et vous faites encore beaucoup, beaucoup d'engagements philanthropiques au-delà de votre travail, je peux dire ça comme ça. Bon, premièrement, il y a de l'enseignement. Est-ce que vous faites encore de l'enseignement dans ce domaine?
Oui. Oui, donc à l'occasion, j'ai une charge de cours à l'Université de Montréal. Là, il existe un micro-programme en financement pour les OPNL. Donc, comment on continue de professionnaliser notre secteur? Fait que ça, c'est une charge de cours plus standard. J'enseigne aussi aux nouvelles personnes qui arrivent en philanthropie. Là, c'est un cours intensif de 2 jours sur l'ABC de la collecte de fonds, comment on sollicite, comment on présente notre organisation, notre cause. Donc, ce sont tous des façons que j'incarne ça dans l'enseignement. Puis je suis moi-même encore retourné aux études. Je suis à la maîtrise justement en philanthropie en ce moment.
Oui, alors donc, vous n'avez pas l'intention de lâcher, comme on dit.
Non, puis pourtant, je suis pas le portrait type d'un étudiant très studieux. Donc, c'est difficile de m'asseoir sur un banc d'école, mais quand le sujet me parle, on dirait là, que c'est le petit levier là, que ça me prend. Je n'irais pas faire un MBA. Je pense pas que je réussirais à faire un bilan financier à la fin de la journée.
Bon, mais attendez, là, parce que quand même, vous êtes bien parti. Moi, je vous dirais, parlez-en pas trop, finalement. Puis,
oui,
c'est ça. On va regarder votre CV, puis nous, on va croire que vous êtes capable de tout défoncer ces portes.
Capable d'aligner.
Oui, c'est ça.
Capable d'aligner 2-3 chiffres, mais il faut que la passion soit là. Puis bon, en philanthropie, clairement, elle est là.
Oui. Vous avez aussi présidé le Conseil de l'Association des professionnels en philanthropie, hein?
Oui. Ça, c'était
jusqu'à tout récemment.
Exactement. Donc, je suis maintenant président sortant. Je viens de terminer mon mandat avec cette association-là, qui a été un beau cadeau dans ma vie, parce que quand je suis arrivé là, justement aux amputés de guerre où j'étais vraiment du côté vraiment des organisations, il y avait quand même une part d'inconnu. Je connaissais la philanthropie du côté corporatif, donc du côté des gens qui donnent de l'argent, qui se font demander de l'argent. Il fallait que j'apprenne le métier, mais de l'autre côté, maintenant, ceux qui en demandent. Donc, cette association-là, les gens qui sont arrivés dans ma vie très tôt, ils m'ont pris dans l'association, puis j'ai fait mon petit bout de chemin, puis j'ai eu le privilège, je vais vous dire, de présider cette organisation-là, qui représente, là, grosso modo, à peu près 500 professionnels de la philanthropie au Québec. Donc, c'est tout un écosystème de gens qui se retrouvent souvent, la philanthropie se retrouve souvent, là, entre notre travail, à mi-chemin, je vais vous dire, entre les besoins qui sont là, puis les gens qui ont des ressources, comment on peut s'assurer de faire un peu faire des matchs, là, dans le fond, un peu. C'est un peu Tinder de la philanthropie, notre travail, là, c'est de trouver une partie qui est intéressée à l'autre, puis s'arranger que ça fonctionne.
Avez-vous une application Tinder spécifique pour ça?
J'aimerais ça.
Non, mais gens, pourquoi
là, pas?
C'est
pas le bon mot en français, mais que ça swipe là, du bon
mais
côté.
Oui.
Mais on est un peu des entremetteurs dans notre travail.
Oui,
Il y a des gens qui ont de l'argent, ils veulent évidemment faire un changement, ils veulent pas saupoudrer leur argent, ils veulent que ça ait de l'impact. Il y a personne qui veut donner pour juste le fait d'avoir dit qu'ils ont fait un don à la fin de l'année. Donc, comment on trouve des besoins, comment on arrive à tout ça? Puis les besoins, il n'en manque pas, ils sont croissants, puis c'est pas la pandémie qui a aidé, c'est pas l'incertitude du climat économique et politique qui va aider non plus. Donc, les besoins vont toujours être là. Puis il y a des gens qui ont des ressources, puis tant mieux, on va s'assurer d'une bonne redistribution de cette richesse-là, disons.
Vous parlez de donateurs, que ce soit entreprises ou individus, qui aiment bien qu'on reconnaisse ce qu'ils ont fait, mais on voit, me semble, de plus en plus sur des tableaux des donateurs discrets. Est-ce que c'est une idée qu'on se fait, ou c'est-à-dire qui font ça vraiment gratuitement, là, c'est pas le bon mot, mais où ils n'exigent pas finalement de visibilité quelconque?
La
Est-ce
réponse,
que je
c'est
me
un
trompe?
peu tout ça, j'ai le goût de dire. Ben, vous vous trompez vraiment pas. La réponse, c'est un peu tout ça. Il y a des gens qui veulent donner, là, puis je veux dire que la majeure partie des gens donnent de façon désintéressée. Ça leur fait plaisir, ils veulent contribuer à leur cause. Ce qu'ils recherchent en contrepartie, non, c'est pas une photo avec un chèque géant, là, puis une belle photo, là, puis une belle annonce grand public. Il y en a qui veulent vraiment faire ça dans la discrétion, puis donner du cœur. Puis il faut dire aussi, dans la machine de la philanthropie, lorsqu'on voit un grand donateur qui fait un grand don avec son nom sur une plaque ou une photo, ben, il y a d'autres fondations autour qui font « Ah, ben, t'as un peu, ce donateur-là, il a donné de l'argent, je vais aller le chercher, moi aussi, à mon tour, je vais l'approcher, tu sais, s'il y a des ressources, s'il aime telle cause. » Fait qu'il y a des donateurs qui veulent donner quand ça leur tente, mais ont moins le goût, parfois, des fois, de se faire solliciter par d'autres. Fait que la discrétion, c'est pas parce que leur don est honteux, parce qu'ils veulent rester cachés, mais ils ont pas le goût non plus de devenir, là, finalement, une porte d'entrée là, où les gens viennent cogner à tous les jours. Fait qu'il y a un peu de tout ça. Mais oui, il y a encore des gens qui donnent, et en grande partie des gens qui donnent vraiment de bon cœur. C'est pas pour se déculpabiliser, c'est pas pour se racheter. C'est juste parce qu'ils ont de l'argent, ils veulent en donner et ça leur fait plaisir.
Oui, c'est ça. Ça leur fait, en tout cas, ça fait avancer des causes auxquelles ils tiennent d'une certaine façon. Est-ce qu'on est. On dit toujours qu'on n'est pas généreux, nous. Est-ce que c'est vrai?
J'aimerais arriver là de façon très étrange, je veux dire, ben non, c'est un mensonge, mais il y a un peu de vérité.
Okay.
Il y a un peu de vérité, mais elle est contextualisée. Fait que là, c'est là que j'arrive avec la nuance, puis des fois, on manque de nuance, hein, dans nos grands débats et nos grands constats de société. Le Québec, il faut dire que on s'est séparés, hein, d'Église à un moment donné. C'est un petit divorce qui s'est opéré. Dans le hors Québec, la portion, là, je voudrais l'écart entre ce que le donateur québécois va donner puis le donateur ontario va donner, cet écart-là, il va encore à l'Église dans les autres provinces. Parce que l'Église fait encore partie des grandes habitudes de la majeure partie de la population ailleurs. Donc nous, c'est une portion qui va moins là. Il faut aussi considérer que le Québec, on est quand même taxé, hein. On se le cachera pas. Et avec l'ensemble des services sociaux qu'on a et l'ensemble de la gratuité ou de l'accessibilité qui est un peu plus universelle au Québec, il y a aussi une portion des gens qui disent moi, mon don, je le fais à travers mon rapport d'impôt à chaque année. Oui, c'est pas complètement faux, mais après ça, le don à travers le rapport d'impôt, je vous dis, il sert qu'à financer le strict minimum. Donc, à partir de là, est-ce qu'on se contente du strict minimum ou est-ce que les gens qui sont capables de faire un effort supplémentaire vont faire un plus? Mmh. C'est pas pour rien que des fondations hospitalières, que des fondations dans les écoles, parce que oui, je veux dire, l'hôpital, on a une carte soleil, les écoles, on le paye avec nos taxes scolaires, mais si on veut aller plus loin, si on veut encore une fois comme société se dépasser puis se démarquer, c'est là que la philanthropie entre en bout de ligne. Puis ultimement, je dirais que les Québécois sont d'ailleurs plus généreux, notamment de leur temps. On a du bénévolat extraordinaire qui se fait au Québec. Et les Québécois ont réagi beaucoup en temps de crise. C'est là qu'on est fort. Mm-hmm. Là, j'ai un exemple qui date de Mathusalem presque, mais je voudrais le déluge au Saguenay, ça a été un des plus grands élans de générosité qu'il y a eu au Québec. Quand il arrive des situations dramatiques, on est très solidaires, on serre les coudes comme société, et ça se vit aussi en philanthropie. Donc on dirait que les Québécois ont besoin d'avoir un sentiment d'urgence criant et faire « Oh mon Dieu, là, il faut que je mette l'épaule à la roue. » L'épaule à la roue, là, pour une personne, c'est peut-être 5 $. Pour une autre personne, c'est peut-être juste un peu de temps de bénévolat parce qu'ils n'ont pas d'argent. Puis pour d'autres, ça va être des milliers, des millions. Donc, chacun, à notre échelle, à notre capacité et à notre capacité financière, on peut être philanthrope assurément.
Mais Daniel, puisque vous parlez de temps, on va être obligé de s'arrêter ici. Il y a plusieurs sujets qu'on aurait bien aimé aborder avec vous. Et je sais que vous êtes, que votre cœur est encore avec Canalem. Alors, je pense que je vous fais une grande demande. Je pense que je vais vous réinviter. Alors, si vous êtes d'accord, parce qu'il y aurait quand même des enjeux dont on devrait parler compte tenu de nos auditeurs. Et en terminant, vite, je veux juste savoir, je suis curieuse, ça c'est très personnel. Quand je vous ai parlé mardi, ça faisait 2 heures que vous étiez parti de Montréal en train, vous étiez rendu à Saint-Lambert. Votre destination, c'était Québec. À quelle heure êtes-vous arrivé à Québec?
Un peu avant 13 heures. Annulé la journée même.
Bon, oui, c'est ça. Bien, merci, ça prouve juste votre patience et votre persévérance. Merci beaucoup, Daniel Lantaigne, vice-président talent, stratégie et impact chez BNP Inspire. Bonne journée.
Merci à vous deux aussi.